18h37, suite de RTL Soir avec votre deuxième invité, Marc-Olivier Fogiel.
Deuxième invité d'RTL Soir, le témoignage bouleversant d'une mère qui a offert la mort à son fils. Bonsoir, Anne Ratier.
Bonsoir.
Vous publiez chez City Témoignages un livre extrêmement fort. J'ai donc offert la mort à mon fils. Vous racontez pourquoi il y a 32 ans, vous avez mis fin au jour de Frédéric, votre petit garçon de 3 ans, lourdement handicapé, qui était dans un état végétatif. Pour commencer, vous avez écrit ce livre pour lui, mais aussi parce que vous voulez porter le combat de la fin de vie, même au début de la vie.
Oui, parce que je pense que c'est très important, comme pour mon fils, qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas s'exprimer, que de dire vraiment que la vie, on ne pouvait pas la vivre à tout prix, et qu'il y avait pire que mourir. Parfois, c'était vivre dans un état végétatif ou lourdement handicapé, ou sans jamais avoir conscience de vivre vraiment.
Et vous écrivez derrière le titre... Il n'y a nul désir de choquer, il y a de la chair, du sang, des larmes, des cris de révolte, des râles de désespoir. Derrière ce titre, il y a l'amour surtout, que la mort est venue secourir, il y a la vraie vie. Mais vous avez conscience qu'en racontant votre histoire comme vous allez le faire ce soir, vous allez choquer une maman qui malgré tout tue son petit garçon.
Bien sûr, mais je vais choquer comme j'ai été choquée moi aussi, parce que si vous voulez, je ne m'attendais pas à vivre une situation pareille. Et je ne m'attendais pas à en arriver à une situation pareille non plus. Et je comprendrais que tout le monde trouve cela choquant. D'ailleurs, si on ne trouve pas ça choquant, ça n'est pas normal. J'ai lutté contre moi-même aussi pour en arriver à...
C'est ce que vous allez me raconter ce soir. Comment vous avez lutté contre vous-même? Encore un mot du contexte, j'allais dire. Ce livre sort aujourd'hui chez City Témoignages. En 94, vous avez tenté une première fois de vous faire publier. Ça vous a été refusé. Ça veut dire que la société aujourd'hui... est davantage prête à écouter ce genre d'histoire. La fin de vie, même au début de vie, c'est moins tabou, vous avez l'impression ?
Non, ça n'est pas moins tabou. C'est simplement moi qui me suis dit que de toute façon, il fallait que je parle pour justement ajouter ma voix à tous ceux qui essayaient justement d'obtenir l'euthanasie parce qu'ils étaient dans des situations pas possibles, qu'ils souffraient trop ou qu'ils voulaient vivre dignement. À force d'entendre des gens qui réclamaient cette humanité-là, que ce soit Vincent Humbert, Chantal Sebir, Anne Berthe, chaque fois je me suis tue et ça m'a coûté de me taire.
Anne Berthe est partie mourir en Belgique, elle était venue nous raconter sa volonté avant de partir. On va raconter votre histoire et celle donc de Frédéric. Tout d'abord, la naissance, ce jour de Toussaint 1984. Vous êtes admise dans une clinique pour la naissance donc de votre premier enfant. Malgré une nuit entière de douleur, la sage-femme ne prévient pas les médecins. Et au petit matin, l'anesthésiste et l'obstétricien constatent que le cœur de votre bébé ne bat plus, que votre état est catastrophique, une césarienne est pratiquée, votre fils est sauvé. Mais il est gravement touché.
Oui, en fait, je n'apprendrai que plus tard qu'il est né mort, mais qu'on l'a réanimé de force. Ensuite, qu'il a été transféré dans un hôpital de la région où il n'y avait pas le matériel quand il a fait des convulsions. Mais on a fait signer à mon mari un papier en lui disant « ça n'est pas grave, tous les enfants qui naissent par césarienne ont ce petit problème respiratoire ». Donc mon mari dit « si ça n'est pas grave, bien sûr qu'on le soigne ». Mais bon, en fait, on s'est aperçu, nous avons mis 3 ans pour nous apercevoir que c'était irrémédiable en fait.
Et à l'âge de 20 mois, Anne, à l'hôpital à Paris, dans le 14e arrondissement, là on vous annonce la vérité.
Oui.
Votre fils sera lourdement handicapé toute sa vie. Oui. Ce sera un légume, on vous dit. Oui. À 3 ans, il devra être pris en charge dans un centre.
Oui,
dans un Quand centre. Les mots sont mis, qu'est-ce que vous ressentez?
Votre monde s'écroule. Quand le couperet tombe, on se pose beaucoup de questions. Comment... C'était très difficile pour nous, pour moi, très difficile de me dire dans quelques temps, je vais être obligée de le laisser à des étrangers. Mais comment continuer à vivre en sachant que mon enfant est quelque part dans un centre, que je ne sais pas si on le maltraite, que je ne sais pas si c'est carrément l'abandonner. Ça, je ne pouvais pas le faire.
Et vous écrivez, je lutte entre mon désir de garder Frédéric auprès de moi et la certitude que mon amour, incapable de lui donner la vie qu'il mérite, n'a d'autre solution que de lui apporter une fin douce parmi ceux qui le chérissent, loin des regards étrangers. D'un côté, vous n'arrivez pas à imaginer une vie sans lui, et en même temps, vous n'imaginez pas une vie dans ces conditions-là pour lui.
Exactement. C'est-à-dire que on lutte entre ces deux pensées qui sont je ne peux pas m'en séparer parce que il fait partie de moi. Et en même temps, je ne peux pas le laisser continuer comme ça parce que il va où? Il va souffrir, il va être pris dans une coque qui va augmenter au fur et à mesure de sa croissance, mais Non, ça n'était pas possible parce que ça n'était pas. Il n'avait même pas conscience de vivre. J'ai essayé aussi de me mettre à la place de mon fils, de Frédéric, et je me suis dit, pour moi, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, si toi tu te retrouvais dans telle situation.
Donc vous dites que c'est un énorme geste d'amour que vous avez fait.
Pour moi, c'est un geste d'amour. C'est arrêter les souffrances. Ne pas avoir à l'abandonner.
Il y a une phrase clé qui vous a donné le courage de mettre fin à ces jours, une phrase de votre père avant sa mort qui vous a dit « Le jour où vous aurez la certitude qu'il n'y aura plus d'espoir, préparez-vous et amenez-le ici, nous partirons tous les deux. »
Oui, parce que mon père, quand il a vu que Frédéric était comme ça, il s'est dit « Ça n'est pas possible qu'il vive de cette manière-là. » Et un jour, eh bien, il m'a dit « Le jour où tu n'as plus d'espoir, où les médecins te disent qu'il n'y a plus rien à faire, amène-le et on partira tous les deux. »
À quel moment vous avez eu cette force de vous dire « C'est le moment ?» Vous dites d'ailleurs « Ma décision de mettre fin au jour de mon fils, je l'ai prise dans une souffrance atroce. »
Ah oui.
À quel moment vous avez dit « C'est maintenant ?»
Quand mon père est mort. Quand, sur son lit d'hôpital, j'ai vu qu'il était en train de mourir et qu'il se faisait encore du souci pour son petit-fils. Et c'est là que j'ai promis à mon père que mon fils, je ne l'abandonnerai pas, que je ne le laisserai pas à des mains étrangères. À partir de là, déjà, j'ai commencé un cheminement qui a duré 6 mois.
Et à quel moment, au bout de 6 mois, vous avez dit « c'est maintenant que je vais lui donner des neuroleptiques, puisque c'est comme ça qu'il est parti ». D'ailleurs, vous écrivez hein, « Je revois encore ma main qui tremble pendant que mon corps est secoué de sanglots ». Je le berce pendant près de 2 heures, je lui dis combien je l'aime, combien je regrette de ne pas être morte à sa place lors de sa naissance. Ce moment où vous lui administrez ses neuroleptiques, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire à ce moment-là?
Alors, à ce moment-là, c'est parce que à ce moment-là, il allait avoir 3 ans. Et que 3 ans, c'était l'âge fatidique. Et qu'à partir de 3 ans, il faudrait trouver un centre parce que je ne pourrais plus, moi, le garder.
Frédéric nous quitte le jour de ses 3 ans. Je n'oublierai jamais sa main dans la mienne. Oui. Lorsque 3 petits souffles chauds s'échappent de sa bouche entrouverte, son visage se détend avant de se figer dans un sourire étrange, un sourire de sérénité enfin atteinte. Ce doux sourire de délivrance nous réconforte en même temps que notre désolation est à son paroxysme. Nous sommes au-delà de la souffrance.
Oui, au-delà de la souffrance. C'est tellement difficile, je m'excuse, mais j'ai pas. C'est tellement difficile de mettre des mots.
En faisant ça, en lui donnant des neuroleptiques, en le faisant partir, vous aviez conscience aussi de commettre un acte illégal?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand il est mort, j'ai fait part à ma famille, à tout le monde, que je voulais que ça soit connu. Je voulais dire ce que j'avais fait. Alors là, c'est mon mari qui m'en a dissuadé.
Parce que vous auriez été prête à aller en prison?
Ah oui. Mais même là, je serais prête à y aller. Mais si vous voulez, c'est pas comme si j'avais eu beaucoup de choix. Maintenant, j'ai eu la conscience très aiguë d'être sur le fil du rasoir, de transgresser une loi. Mais si vous voulez, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps que mon fils continue à souffrir. Parce que qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait une demande. À qui? Pendant combien de temps? Ça aurait duré des années. Et j'aurais su mon fils dans un centre.
C'est aussi la raison pour laquelle vous écrivez aujourd'hui. Pour les autres, j'imagine. Pour que d'autres mères qui se trouvent dans la même situation que la vôtre, elles, soit aidée, soit accompagnée. Vous avez espoir que cette loi change pour conclure?
J'ai l'espoir que cette loi change. J'ai l'espoir que les mentalités évoluent. C'est juste mon expérience. Je ne veux pas donner de leçons, mais si vous voulez, je qu'on prenne en compte la souffrance des gens. Il est question d'amour et les questions, bien sûr, l'euthanasie ou d'accord, mais c'est la vie aussi.
Je pense dans votre histoire, ce qui est un peu différent des histoires d'euthanasie, vous parliez tout à l'heure d'Anne-Bert, c'est que vous avez choisi pour votre petit garçon.
J'ai choisi pour
à
mon
sa
garçon.
Place.
Voilà.
Lui n'a rien demandé. C'est peut-être ça qui va
déranger. Oui, je comprends la difficulté. Je comprends que mon message peut-être ou mon expérience va peut-être heurter. Je m'excuse de heurter, mais sincèrement, et si vous voulez, je suis en accord entre mes pensées, mes actes, ma parole, c'est cohérent tout ça. C'est pour ça que je suis sereine. Ce que j'ai choisi, ça m'est propre. Maintenant, j'espère que ça va pouvoir aider aussi d'autres personnes.
Merci de votre témoignage ce soir sur RTL. On vous lit aux éditions City Témoignage. J'ai offert la mort à mon fils. Merci Anne Ratier.
Merci à vous. RTL Soir, 18h47.
Allez, à suivre les essentiels de l'info de RTL Soir. La météo, RTL Monde et ensuite le journal de 19h de Céline Landreau. On retournera donc à Évry-Courcouronnes où Emmanuel Macron est face à 300 élus.
RTL Soir. MMA.